Gloire à Dieu. Nous sommes devant la présence de Dieu. Dieu, c'est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de miracle, le Dieu à qui rien n'est impossible. Nous sommes là pour écouter sa parole. Nous sommes là aussi pour croire ce que la parole de Dieu dit. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette parole qui crée en nous la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une confiance que nous plaçons dans le Dieu vivant et vrai. Il arrive souvent que des chrétiens prient et disent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Personnellement, dans la Bible, je trouve que cette prière ne tient pas la route. Parce que lorsque les disciples de Jésus ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi », Jésus n'a pas dit « Oui, je vais vous augmenter la foi ». Il leur a dit par contre « Si vous avez la foi, comme un grain de senevé, vous direz à cette montagne « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera si vous ne doutez pas dans votre cœur ». Amen. Augmente-nous la foi, ce n'est pas la prière d'un chrétien. Dieu ne demande pas une foi comme une montagne, il demande la foi comme un grain de senevé, une toute petite poussière. C'est ça qui va déplacer les montagnes. Dieu agit là où les hommes et les femmes sont disposés à le voir agir. Donc ce matin, nous allons parler de Dieu qui s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Nous avons l'habitude de parler de manière générale, de manière globale, mais aujourd'hui, nous allons parler de manière personnelle, individuelle. On peut être dans une assemblée puis dire, bon, je viens de l'assemblée, Dieu va faire des choses. Pour son peuple, on s'oublie et on vient dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, toujours avec ses fardeaux, avec ses souffrances, avec ses problèmes, et rien ne change. Comme si Dieu avait changé. Et on n'a jamais une rencontre personnelle avec Jésus. Et on finit par s'installer dans une vie de défaite chronique. Une vie d'incrédulité, comme si la parole de Dieu avait changé, comme si la parole de Dieu ne faisait plus ses effets, comme si la parole de Dieu était une parole qui ne tenait plus ses promesses. C'est pour cela ce matin, nous allons parler de Dieu qui s'occupe de toi. Et comme dit la Bible, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi ce matin à vivre une expérience personnel, individuel, avec ton Dieu, celui qui t'a créé, celui qui t'a connu avant la fondation du monde, celui qui t'a choisi du milieu de ta famille pour faire de toi son enfant. Ce matin, ça ne sera pas le Dieu de tout le monde, ça sera ton Dieu personnel. Parce que l'amour de Dieu est d'abord personnel. Nous allons lire un premier texte. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 8. Deux rois, chapitre 8. Dans les messages d'aujourd'hui, nous allons voir des cas individuels, des hommes qui ont reçu une grâce de Dieu particulière parce que Dieu s'est souvenu d'eux, Dieu s'est occupé de leurs problèmes de manière personnelle. Deux rois, chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, nous lisons ceci. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta famille, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme se leva, et elle fit selon la parole de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils, vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque, auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays, jusqu'à maintenant. » L'histoire d'une femme qui était riche, cette femme qui vivait à Sunem, elle avait tout pour être heureuse, et elle était heureuse au départ. Et Élisée avait l'habitude de passer par Sunem, et cette femme a eu à cœur d'héberger Élisée. Elle a dit à son mari, cet homme de Dieu qui passe au milieu de nous, je voudrais qu'on fasse un logement, une chambre haute pour qu'il puisse se retirer et être en contact avec son Dieu. Et son mari a été d'accord. Ils ont préparé une place spéciale, une chambre spéciale pour Élisée. Quand il passait à Sunem, il allait vivre chez cette femme. Et Élisée avait tout ce qu'il lui fallait pour être en contact avec Dieu. Mais un jour, le serviteur d'Élisée, Géasi, dit à son maître Élisée, mais regarde cette femme, elle nous fait beaucoup de bien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle nous rend service. Mais au retour, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Alors, Élisée fait appeler la femme et lui dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi au roi d'Israël pour que le roi s'occupe de toi ou au chef de l'armée pour qu'il mette une garde à tes côtés pour te préserver de tout mal? La femme dit, non, mon Seigneur, je suis dans mon pays, j'ai tout ce qu'il faut, je n'ai besoin de rien. Alors, Géasi dit à Élisée, pourtant, regarde bien, elle n'a pas d'enfant. Et son mari est âgé. Élisée fait appel à la femme et lui dit, l'année prochaine, à cette même période, tu porteras un enfant. La femme qui avait déjà passé pas mal de temps dans la stérilité, dans la déception, dans la difficulté, dans le chagrin, dans une espérance souvent trompée, va dire à Élisée, ne trompe pas ta servante. Ne me promets pas des choses qui ne vont pas se réaliser. N'ajoute pas la déception de mon âme. Élisée lui dit, l'année prochaine, à cette heure-ci, à la même période, tu porteras un fils. Cette femme était riche, mais elle avait un souci. Elle n'avait pas d'enfant. Et cela devait créer en elle une détresse que seule une femme qui vit, qui passe par cela, peut le ressentir. Elle va avoir un enfant, comme Élisée l'avait dit. L'enfant grandit à un certain âge, l'enfant tombe malade et il meurt. Et cette femme fait appel à Élisée. Élisée ressuscite l'enfant. L'enfant reprend vie. Et quelques années après, Élisée passe de nouveau chez cette femme. Et là, il donne à la femme la parole de Dieu. Il dit, l'Éternel me dit ceci, il y aura 7 années de famine dans le pays. Prends ta famille, va là où tu veux, mais ne reste pas ici, parce que pendant 7 ans, il n'y aura rien à manger. La femme prend sa famille, elle va au pays des Philistins. 7 ans après, elle revient. Et quand elle revient, qu'est-ce qu'elle trouve? Son terrain est pris, sa maison est prise, elle n'a plus rien. Elle qui était riche, elle qui avait une position sociale, elle se retrouve, ce qu'on dit aujourd'hui, sans domicile fixe. Elle se trouve ruinée. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Géasi, le serviteur d'Élisée, était en entretien avec le roi et il était en train de raconter au roi tous les miracles que Élisée avait faits. Et il parlait du miracle de la résurrection qu'Élisée avait fait sur le fils de la femme tsunamite. Pendant que Géasi était en train de raconter ce miracle, la femme se pointe chez le roi. Elle qui au départ avait dit qu'elle n'avait pas besoin d'un roi parce qu'elle avait tout. Elle n'avait pas besoin d'un chef militaire parce qu'elle avait tout, elle avait ses richesses. Et là, dépourvue de tout, elle se pointe au même moment, à l'heure même, où on est en train de parler de son histoire. Ça, c'est la conduite de Dieu. Ça, c'est Dieu qui connaît toutes choses. La parole de Dieu dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Cette femme aimait Dieu. Elle avait tout perdu. Mais au moment où elle vient pour voir le roi, pour poser son problème au roi, c'est à cette heure exacte que le serviteur d'Élisée, Géasi, est en train d'expliquer les problèmes de cette femme, de parler de la résurrection de son fils. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dieu fait des choses avec exactitude. Dieu n'est ni en avance, ni en retard. Géasi pourrait parler d'autre chose. Il pourrait parler de la guérison de Naaman. Pas du tout. Il est en train de parler de la résurrection du fils de cette femme quand elle rentre chez le roi. Géasi se retourne voir la femme et dit au roi, « Mon Seigneur le roi, voici la femme dont je suis en train de parler. Que le fils a été ressuscité. Elle est là. C'est un témoignage vivant. » Le roi reçoit la femme et elle-même de sa bouche témoigne de la résurrection dans son fils. A été l'objet. Le roi, touché par ce témoignage, demande à un eunuque d'aller avec la femme pour lui rendre tout ce qui lui a été retiré, tout ce qui a été pris de cette femme, tout a été rendu. Parce que Dieu s'est occupé du cas de cette femme. Amen. Au début, Dieu lui donne un enfant. Ensuite, quand elle a tout perdu, Dieu arrange le rendez-vous entre Élisée et le roi. Pendant qu'Élisée est en train de parler au roi, Dieu fait de manière à ce qu'Élisée parle du problème de cette femme. Et elle arrive à ce moment net où le roi a besoin d'entendre son témoignage de sa propre bouche. Parce que le roi pouvait dire, peut-être que Géasi est en train de raconter des histoires, peut-être que Géasi est en train de rajouter un peu. Le roi avait besoin de certitude. Dieu fait que la femme arrive et elle parle. Et là, son problème est résolu. Notre thème aujourd'hui, c'est Dieu s'occupe de toi. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis des mois, depuis des années? Qu'est-ce qui te fait perdre le sommeil? Qu'est-ce qui te fait perdre la joie de vivre? Qu'est-ce qui te fait renfermer chez toi? Qu'est-ce qui t'amène à éviter le regard des autres? Dieu s'occupe de toi. Pourquoi il le fait? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il y a eu tellement de déceptions dans les églises. Il y a eu tellement des attentes non satisfaites que les chrétiens ont fini par ne plus voir en Dieu un Père qui les aime. Que les chrétiens ont fini par s'habituer à la difficulté, à des prières non répondues, non exaucées. Les chrétiens ont fini par s'installer même dans la dépression ou dans la maladie, disant oui, c'est la volonté de Dieu. C'en est ainsi. La Bible nous dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint de puissance et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Pourquoi les chrétiens vivent dans une situation de détresse, comme si Dieu les avait oubliés? Pourquoi tant de fardeaux portés qui écrasent des chrétiens, comme si Dieu avait changé. Dieu s'occupe de chacun. Il s'est occupé de cette femme. Elle n'était pas la seule femme en Israël. Mais Dieu a vu sa détresse. Et il a fait que les problèmes de cette femme soient résolus. Qu'est-ce que vous avez perdu? Quelle injustice vous avez subie et que rien n'a été résolu jusque-là. Même dans les conflits de famille, on peut avoir subi une injustice. une accusation qui vous a détruite. Ou des choses qui vous revenaient de droit, qui vous ont été ravies. Cette femme, Dieu lui a tout redonné. Parce que Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Nous allons lire nos textes dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. L'évangile est là pour nous amener à voir ce que Jésus a expérimenté, a vécu avec des personnes particulières pour nous amener à la foi véritable. Luc chapitre 8. À partir du verset 43, nous lisons ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle a été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. L'histoire d'une femme qui souffrait depuis 12 ans. 12 ans, c'est long. 12 ans, c'est difficile à supporter quand chaque jour, votre corps vous trahit. Quand chaque jour, votre corps vous rappelle que vous êtes faible, que vous ne pouvez pas faire les choses du quotidien. 12 ans, c'est long. Quand il faut dépenser tout son argent pour chercher la guérison. 12 ans, c'est long. Quand vous ne pouvez plus vivre une vie normale de couple ou assumer vos responsabilités d'homme ou de femme. Quand on est malade, on est diminué physiquement. On perd même son autorité aussi au niveau de la famille. Quel est ce père qui sera respecté s'il n'arrive plus à faire les choses du quotidien? S'il est toujours porté, s'il est toujours au lit, si on doit faire tout pour lui, où sera son autorité? Quelle est cette mère, si elle est dépressive, toujours au lit, constamment couchée, quelle autorité aura-t-elle pour ses enfants? 12 ans, c'est beaucoup. Et cette femme a décidé de tenter le tout pour le tout. Elle a appris que Jésus était quelque part, Jésus en train de guérir. Elle a dit, il faut que j'aille jusqu'à Jésus. Mais elle avait un problème. Elle avait une perte de sang qui était considérée dans la société juive comme étant impure. Elle ne pouvait pas se pointer devant Jésus, se présenter pour dire que j'ai tel problème. C'était de la honte. Mais elle a dit, malgré ma situation, je vais à la rencontre de Jésus. Elle s'est glissée dans la foule. Elle a dit, puisque je ne peux pas exposer mon problème à Jésus, je vais au moins toucher le bord de son vêtement. Au moins, je suis sûr d'une chose. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Ça, c'est la foi. La foi agissante, la foi avec les œuvres. Elle n'a pas seulement dit, je crois, je suis chez moi. Non, je dois toucher le bord du vêtement de Jésus. Et si je le touche, je serai guéri. Elle savait le résultat de son acte. Elle n'a pas dit, peut-être que ça va s'améliorer. Si je touche Jésus, peut-être que ça ira de mieux en mieux. Et elle a dit, je serai guéri. Amen. C'est cette foi que Dieu veut nous donner. C'est cette foi que Dieu attend de nous. Nous avons entendu tellement de messages négatifs que même dans le milieu chrétien, les gens ne croient plus à la guérison divine. Les chrétiens sont devenus passifs au lieu d'accepter que Dieu peut les guérir. Jésus-Christ a accepté de quitter le ciel, de venir sur la terre pour nous donner les bonnes choses. Alléluia. Jésus est venu pour cela, pour le pardon des péchés, on est d'accord, mais aussi pour la guérison des corps malades. Il est venu pour cela. Ésaïe 53, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est chargé de nos maladies. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes quoi? Nous sommes guéris. Cette femme, elle n'avait pas le message de la croix que nous avons. Quand elle est partie vers Jésus, Jésus n'était pas encore monté à la croix. Elle n'avait pas la Bible avec tous les témoignages que nous avons aujourd'hui. Mais elle s'est dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Parce qu'elle voyait les miracles de Jésus. Et effectivement, elle a été guérie. Elle a osé. Alléluia. Avec Dieu, il faut oser. C'est ça la foi. Une foi audacieuse. La foi, ce n'est pas rester, attendre que les choses se passent. Elle a osé. Braver la foule. Frayer son chemin. Jusqu'à toucher le bord du vêtement de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe quand elle touche Jésus? Une force sort de Jésus, guérit cette femme. Le Seigneur se retourne et dit, qui m'a touché? Pierre et les apôtres disent, mais attends Seigneur, tu vois cette foule qui te presse? Et tu oses demander, qui t'a touché? Jésus était au milieu de la foule. Plusieurs personnes devaient le toucher. Mais qu'est-ce qui a fait la différence avec cette femme? Son désir d'être guéri ce jour-là. Son désir que sa situation change ce jour-là. Effectivement, Dieu a exaucé sa démarche de foi. Amen. Elle a été guérie. Et Jésus va lui dire, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est ça. Il n'attend pas de nous des choses compliquées. Il attend que nous lui fassions confiance. C'est lui qui guérit. Nous ne guérissons personne. C'est votre foi qui va vous amener à la guérison de Dieu. C'est votre foi qui va amener les choses à changer. C'est Dieu qui va exaucer votre foi. Il va honorer votre foi. Ce matin, Dieu va s'occuper de toi. Amen. Tu peux te dire, mais ce n'est pas possible, ça fait longtemps que je porte cette maladie. Cette femme, ça faisait 12 ans. Peut-être que la tienne, elle a 10 ans. Peut-être que tu es dans la situation depuis 8 ans, 4 ans, 5 ans. Elle, c'était 12 ans. Tu vas te dire, oui, mais bon, moi, ça fait peut-être 20 ans. Mais nous allons voir des cas plus difficiles, des cas plus longs, nous allons en arriver. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Rien n'est... Nous le proclamons, nous le disons, mais nous ne croyons plus cela. C'est ça, le drame. De la bouche, on proclame que rien n'est impossible à Dieu. De la bouche, on proclame que tout est possible à celui qui croit. Mais dans le cœur, on dit, rien ne passera dans ma vie. Rien, ça ne changera pas. C'est ça. La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés. Mais quel est ce péché? Quels sont ces péchés? Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un a commis adultère. Ne pas croire en Jésus, ne pas croire que Dieu va le faire, c'est un péché. Péché d'incrédulité. Amen. Péché d'incrédulité. C'est pour cela que quand Jésus a commencé son ministère, il disait aux Juifs, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Ce n'était pas l'adultère qui demandait au peuple de se repentir, ce n'était pas de l'adultère. Il demandait au peuple de se repentir de son incrédulité. Parce que le peuple d'Israël était installé dans l'incrédulité. Il ne voyait pas en Jésus le Messie. Il fallait qu'il se repente, qu'il se tourne vers Dieu. Amen. Nous allons voir une autre situation. Luc chapitre 19. Luc 19. à partir du premier verset. Zachée, nous le connaissons tous bien, nous aimons bien parler de son histoire, mais est-ce que nous avons accepté les choses de Dieu comme lui les a acceptées? Luc 19, nous lisons ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Qui est le Fils de l'homme? Vous pouvez parler. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus. On dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qui était perdu? Chacun doit dire, moi, oui. Parce que quand on dit nous, même quand il s'agit de la guérison, on dira nous. Mais quand on dit moi, il s'agit de la guérison, de la délivrance, on dira oui, c'est ma guérison, c'est ma délivrance. Amen. Le salut est individuel. Dieu s'occupe des gens de manière personnelle. Il rentre dans la ville de Jéricho. Jésus est en train de marcher, de traverser la ville. Il y a une foule. On ne peut pas compter le nombre de personnes qui sont là. Partout, les gens s'amassent sur la route. Zachée veut voir Jésus, mais il ne peut pas. Il est de petite taille. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans un arbre sur un sycomore pour avoir une bonne vue sur Jésus. Pourquoi il cherche Jésus? Parce qu'il a des problèmes, cet homme. Il était riche, c'est vrai, mais il était haï, il était détesté par la population. Parce qu'il était malhonnête, il était voleur. Aujourd'hui, on dirait que c'était un escroc. Mais il avait besoin que sa vie change. Il avait besoin de trouver quelqu'un qui puisse l'aimer. Alors il a voulu voir Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne connaissait pas Zachée. Jésus ne vivait pas à Jéricho. Il passe, quand il arrive au pied de l'arbre, il sait que celui qui est là, cet homme-là, s'appelle Zachée. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu est omniscient. Dieu connaît tout. Amen. Parfois, on oublie cela. Parfois, on présente les problèmes à Dieu comme si Dieu ne savait pas ce qui nous arrive. Parfois, dans les prières, on prie comme si Dieu ne voyait pas ce qui se passe. Il dit même les cheveux de nos têtes sont comptés. Il connaît tout. Par rapport à Jérémie, il dit, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le vent de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète pour les nations. Avant même de naître, il connaissait. Là, c'est la même chose. Jésus connaissait qui était dans cet arbre-là. Il dit, Zachée, à toi de descendre, il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Il y avait beaucoup de maisons à Jéricho, mais il y avait une maison que Dieu voulait visiter. La maison de Zachée. Il dit, hâte-toi de descendre. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il s'est précipité tout de suite à la rencontre de Jésus. Parce qu'il avait besoin de cette rencontre. Parfois, on traîne des pieds quand il faut aller à Jésus, quand il faut se donner à Jésus, quand il faut laisser sa vie dans les mains de Jésus. On hésite. On a du mal. On dit, est-ce que vraiment ça va changer? J'ai jeûné, j'ai prié, on m'a déjà fait une onction d'huile, j'ai été dans telle assemblée, ça n'a pas marché. On m'a fait l'imposition de main avec tel pasteur, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça va marcher? Zachée ne s'est pas posé de questions. Il est descendu avec joie. Et tout de suite, il a dit à Jésus comment était sa vie. Il a réparé tout ce qu'il avait fait de mal. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait de tort à quelqu'un, je rends au quadruple, quatre fois. Quand Jésus a vu Zachée dans cette transformation, il a dit, celui-ci aussi un fils d'Abraham. Voilà, le salut est entré dans sa maison. Le problème, c'est que lorsqu'on veut aller à Jésus, il y aura des obstacles. Quand Zachée a accepté Jésus, les gens se sont dit, mais ce n'est pas possible. Jésus, le fils de Dieu, l'homme saint, il est parti loger chez un homme pécheur. Jésus, n'est-il pas au courant de tout ce que fait Zachée dans cette ville? Comment lui, fils de Dieu, il peut se permettre d'aller manger et même peut-être passer la nuit dans la maison d'un homme voleur, escroc? Amen. Peut-être vous aussi vous posez cette question. Est-ce que Jésus peut venir dans ma vie? Est-ce que Jésus peut m'accepter avec tout ce que j'ai fait? Avec ma vie de péché, adultère, fornication, mensonge, vol, toutes ces choses, violence, alcoolisme. Est-ce que Jésus peut rentrer dans ma vie? Oui. Jésus peut rentrer dans la vie de chaque homme pécheur pour lui apporter la solution. Jésus veut rentrer dans le cœur de chaque homme mauvais, méprisé, pour tout nettoyer, pour apporter l'amour de Dieu. Peut-être qu'autour de vous, il y aura de l'opposition. Toi aussi, tu veux que Jésus fasse quelque chose dans ta vie? Toi aussi, tu t'attends à la guérison? Tu ne vois pas comment tu vis? Tu ne vois pas que tu es encore dans le péché? Pourquoi tu oses prier? Tu penses que Dieu va t'exaucer? Ce n'est pas l'affaire des autres. C'est ton affaire à toi et Dieu. C'est une démarche personnelle. Quel que soit votre passé, c'est Dieu qui va le gérer. C'est Dieu qui va s'occuper de vous, pas les autres. Ne laissez pas la foule vous empêcher d'arriver au contact de Jésus. Ne laissez pas la médisance de la famille vous empêcher de rentrer en contact avec Jésus. Ne laissez pas la moquerie des hommes et des femmes vous empêcher de vivre la bénédiction que Dieu a pour vous. Zachée s'est laissé interpeller par Jésus et le salut est entré dans sa maison. Dieu s'occupe de vous. Dieu s'est occupé de Zachée, il va s'occuper de toi. Quelle que soit ta situation. Peut-être que tu es le mal-aimé. Peut-être que tu as même une étiquette dans ton milieu, dans ta famille. Peut-être qu'on ne t'appelle même pas par ton nom. Peut-être qu'il y a un autre nom qu'on a donné pour éviter de t'appeler par ton propre nom. On t'a surnommé, on t'a donné un nom qui te dégrade. Peut-être qu'on t'indexe. Peut-être que tu es surnommé bon à rien ou vaurien ou je ne sais pas, un nom de ce sens. Tu es le mépris de tous, on t'a toujours piétiné. Comme on dit, tu es peut-être le vilain petit canard de la maison, de la famille. Mais Jésus a besoin de toi pour faire de toi quelqu'un d'autre. Parce que tu es aussi un fils d'Abraham, père de la foi. Parce que ta foi va t'amener à vivre quelque chose d'autre avec Jésus. Dieu s'occupe de personnes individuelles. Il était dans Jéricho, il y avait la foule, mais il s'est occupé d'une personne qui était dans le besoin. Ça, c'est notre Jésus. Ce matin, il veut te parler à ton cœur, à toi, personnellement, pour que ta vie soit transformée, qu'elle change. Nous allons voir un autre texte. Luc chapitre 13. Nous avons vu Zachée qui avait des problèmes de péché dans sa vie, une vie triste, malheureuse, secouru par Jésus. Il avait besoin de salut. Il est sauvé. Luc chapitre 13. À partir de verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la femme, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite !» lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Fille d'Abraham, là nous avons une autre situation. Cette femme, elle est possédée. Elle est possédée. Elle est liée par le diable. Satan la tient avec une chaîne spirituelle. Où est-ce que Jésus rencontre cette femme ? Pas dans la rue ? Pas chez elle, dans la synagogue. Amen. Dans la synagogue. Qu'est-ce que la synagogue ? C'était le lieu de prière des Juifs. Ça correspondait aujourd'hui à un temple où nous nous réunissons comme celui-ci. Un lieu où les hommes et les femmes priaient. Un lieu où les hommes et les femmes étaient là pour Dieu. Pourtant, dans cette même synagogue, cette femme était possédée, liée. Combien de temps elle venait dans cette synagogue ? La Bible nous dit qu'elle était possédée depuis 18 ans. Elle avait quel âge cette femme ? Nous ne savons pas. Imaginons-nous que cette femme soit une femme qui a 50 ans. Imaginons. Et que ça fait 18 ans qu'elle était possédée par cet esprit qui la tenait liée. Imaginons-nous. 18 ans où elle venait dans cette synagogue, où elle priait avec les autres, et elle repartait avec son démon. Amen. Voilà la réalité. Qui peut aussi se retrouver dans nos églises, où on est possédé, on est enchaîné, où on vient, mais rien ne change. Dieu a-t-il changé ? Jésus a-t-il changé ? Jésus n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand Jésus a vu cette femme, il a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. La délivrance, c'est pour l'Église de Jésus-Christ. La délivrance, c'est pour le peuple de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter la délivrance aux opprimés. » Amen. Pour libérer les captifs, il y a des captifs, même dans les églises. Et on finit par s'habituer. On finit par se conformer à ça. C'est pas ce que la Bible dit. Jésus a dit à ses disciples, guérissez les malades, chassez les démons, prêchez la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Ressuscitez les morts. N'a-t-il pas dit cela ? On finit par ne plus voir ce verset. On finit par ne plus croire en ce verset. Il a dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il n'a pas dit qu'ils vont danser. Ils chasseront les démons. Quelqu'un de possédé a du mal à danser. Mais quand il est délivré, là, il peut louer Dieu, il peut sauter, il peut crier à Dieu, parce qu'il se sent libre. Cette femme a glorifié Dieu quand elle a été délivrée. Comme le boiteux qu'on a mené devant la belle porte du temple. Quand Pierre et Jean entrent dans le temple, ils l'ont vu. Il a demandé l'argent à Pierre et Jean. Pierre lui a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Cet homme s'est levé. Il s'est mis à sauter, il est entré dans le temple, et là il a glorifié Dieu. nous sommes aujourd'hui avec une mentalité des gens qui n'espèrent plus rien de Dieu. Nous sommes assis dans notre problème. C'est pour cela que nous avons du mal à évangéliser. Qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui sont possédés à l'extérieur si nous-mêmes nous sommes possédés? Qu'est-ce qu'on va dire à ceux qui souffrent à l'extérieur si nous-mêmes nous ne croyons plus à la guérison de Dieu? C'est pour cela que nous avons du mal à prêcher avec force. Nous avons du mal à témoigner du Dieu de miracles. Ce matin, Dieu s'occupe de toi. Amen. Dieu s'occupe de toi. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Cette femme était dans la synagogue, entourée de beaucoup de personnes, mais Jésus s'est occupé de son problème, de son cas à elle. On est nombreux aujourd'hui, mais c'est ton cas à toi qui concerne Dieu. C'est ton cas à toi que Jésus va résoudre. Mais ça dépend si tu y crois. Ça dépend si tu espères que quelque chose peut encore changer dans ta vie. Jean chapitre 5. Encore une autre situation. Jean chapitre 5. À partir du premier verset jusqu'au verset 11. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Ça monte crescendo. On avait commencé à 12, 18. Maintenant c'est 38. L'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Amen. Un homme malade depuis 38 ans. Là, c'est encore plus long que ce qu'on a vu au départ. 38 ans, c'est presque une vie. Quand on arrive à l'âge de 38 ans, quand on regarde derrière, on a déjà fait beaucoup de choses. Mais cet homme était là, toujours couché, sur son lit, sur sa natte, au bord d'une piscine, où tous venaient pour chercher la guérison. Où c'était la course à la guérison. C'était le plus rapide qui était guéri chaque fois que l'eau était agitée. C'était, on pourrait dire, le miracle à la carte. Mais cet homme, il est paralysé. Comment peut-il courir avec ceux qui sont valides? Ceux qui viennent là, peut-être parce qu'ils ont un problème de bras. Ceux qui viennent là parce que peut-être qu'ils ont un problème au niveau de l'oreille. Comment lui, qui est paralysé, pouvait rivaliser avec ces personnes? Mission impossible. Condamnation certaine. Jésus vient. Il voit tous ces gens qui étaient là. Des estropiés, des boiteux, des aveugles. Il y avait toutes sortes de personnes. Ce lieu, c'était un concentré de misère. C'était un endroit où on pouvait trouver toutes les détresses de l'humanité. Qu'est-ce que Jésus fait? Il s'approche de cet homme qui depuis 38 ans était en souffrance. Et il lui pose la question qu'il vous pose aussi à vous ce matin. Il dit à cette personne, veux-tu être guéri? C'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui. Ça fait 2 ans, 3 ans que je viens dans l'Assemblée. Peut-être même plus, ou quelques mois, ou quelques jours seulement. Avec mon problème, avec ma maladie, avec ma situation. Attendant que quelque chose se passe. Attendant que peut-être la prière que je lui ai faite soit exaucée. Et la question de Jésus, elle est toute simple. Veux-tu être guéri? C'est une question de volonté aussi. On peut s'installer dans une situation de maladie, de difficulté, et puis on n'attend plus rien de Dieu. Parce que peut-être les autres peuvent aussi s'occuper de nous. Parce que si on est guéri, qu'est-ce qui va se passer? Il faut se lever le matin pour aller chercher le travail. Il faut se bouger un peu. Mais quand on est malade, on s'occupe de nous. On nous fait à manger. On fait les courses pour nous. On fait le ménage pour nous. Peut-être qu'on a les services sociaux nous envoyer quelqu'un pour nous faire le ménage chez nous. On est tranquille. On n'a pas besoin de se bouger comme ça. On peut s'installer dans une situation de dépendance. Une situation de confort. Entre guillemets. Mais Jésus demande à cet homme, veux-tu être guéri? Veux-tu maintenant que Dieu change ta vie et que tu vives comme tout le monde? Que tu te prennes en charge maintenant? Que tu vives une vie honorable au lieu d'être toujours à la pitié de tout le monde? Oui, parfois aussi, il y en a qui aiment être toujours apitoyés. Ils se sentent bien dans une situation où toujours on sent de la pitié pour eux. Ce n'est pas la situation que Dieu a pour vous, ni pour nous. Dieu veut vous redonner votre dignité. Il veut vous redonner une vie qui soit, comment dire, agréable aux yeux des hommes aussi. Et cet homme va répondre à Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne. Il va répondre par rapport à son handicap à atteindre la piscine. Il pensait que Jésus peut-être allait lui donner un coup de main pour le jeter rapidement dans la piscine. Il dit, je n'ai personne. Il s'attendait à ce que Jésus le traîne, qu'on le va bouger jusqu'à l'amener à la piscine avant tous les autres. Je n'ai personne. C'était ça. Est-ce que tu peux me donner un coup de main puisque tu me demandes? Souvent, quand on est dans les situations difficiles, on cherche le recours auprès des hommes au lieu de rechercher le recours auprès de Dieu. On prend son téléphone pendant des minutes, pendant des heures, on raconte ses misères, on se plaint. On raconte toutes ces détresses. J'ai été voir le médecin. Il a dit que les résultats sont mauvais. Je ne sais pas. La semaine prochaine, je dois passer faire des au laboratoire. Après, encore et encore. On raconte. Mais on n'a pas parlé à la seule personne qui a la solution. Jésus, le Fils de Dieu. On ne s'est pas adressé à lui pour dire, Seigneur, ta parole dit ceci. C'est par tes meurtres aussi que je suis guéri. Père, tu as dit dans ta parole que tu ne me délaisseras point, que tu ne m'abandonneras point. Tu as dit dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Tu as dit, on cite la parole de Dieu. Amen. Et cet homme, comme Jésus, je l'ai dit au début, s'occupe des individus. Il va dire, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il obéit automatiquement. Amen. Il n'a pas dit, mais tu vois mes jambes là? Tu rigoles ou quoi? Tu vois dans quel état je suis? Non. Il a accepté la parole de délivrance. Il s'est levé, il a marché. Mais autour de lui, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, mais hey, c'est le sabbat. Il t'est interdit de porter quelque chose, de porter ton lit le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire ces hommes? Ils voulaient dire, monsieur, mettez votre lit, couchez-vous. Attendez le lendemain pour vous lever. Amen. Mais c'est ça. Peut-être qu'il vous arrive cela. Vous voulez faire un pas de la foi. Et puis vous pensez, aïe, 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 qu'est-ce qu'ils vont penser là? Et si ça échoue? Et si ça ne fonctionne pas? Et si ça, si je déclare que Dieu va s'occuper de moi, et si ça ne marche pas? La foule, ce n'est pas seulement les autres. Ça peut être aussi notre raisonnement, nos idées. Ça peut être aussi notre religion. Notre façon d'avoir pratiqué jour après jour une religion morte. Ça nous bloque. Ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc il y a une condition. Il faut d'abord croire. Croire quoi? Que tout est possible à celui qui croit, que rien n'est impossible à notre Dieu. Crois que Dieu vous aime. Crois qu'il vous connaît. Crois qu'il a envoyé son Fils pour vous. C'est cela. La maladie, ce n'est pas un cadeau de Dieu pour l'humanité. La maladie, ce n'est pas un cadeau de Dieu pour l'Église. Il y a toutes sortes de doctrines qui circulent. Et les chrétiens finissent par les accepter. Donnez-moi un seul exemple. Où un malade est venu à Jésus. Jésus lui a dit, oui, va avec ta maladie, c'est ma volonté que tu sois comme ça. Vas-y avec ta maladie. Je veux que tu sois, que tu restes comme ça. Aucun dans la Bible. Pas un seul. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que quand il travaillait, la Bible nous dit, ceux qui venaient à lui, qui avaient vraiment le désir d'être guéris, tous étaient guéris. Tous ceux qui étaient dans le besoin de guérison étaient guéris. Mais je ne prêche pas la méthode Coé. Ce n'est pas un conditionnement mental pour dire, oui, je vais être guéri, je vais être guéri, je vais être guéri. Ce n'est pas cela. Je prêche la foi dans la parole de Dieu. Je prêche la vérité biblique que Jésus est venu accomplir sur la terre. C'est lui qui le fait. Mais nous, nous annonçons la bonne nouvelle du salut. Et pour terminer, nous allons lire le psaume 34. Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Amen. Quand un malheureux crie, ce n'est pas un orgueilleux qui crie. Ce n'est pas un homme qui est imbu de sa personne qui crie. Un malheureux. Celui qui est malheureux, c'est celui qui connaît qu'il a tellement souffert qu'il n'en peut plus. Celui qui est malheureux, c'est celui qui sait que sa vie n'est qu'une vie parsemée de difficultés, de souffrances, de maladies, de complications, que toutes les portes semblent fermées. Celui qui est malheureux, c'est celui qui n'a plus aucun secours et qui se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Est-ce que ma vie va encore changer? Est-ce que je pourrai encore vivre tranquille? Est-ce que je peux me débarrasser de mes somnifères? Est-ce que je peux avoir le sommeil tranquille, normal, comme je l'avais auparavant? Dormir tranquille, ne pas avoir des cauchemars, se réveiller en pleine nuit, tout en sueur. Oui, il y en a qui dorment, mais leurs nuits sont des nuits de terreur. Il y en a avant d'aller au lit, c'est des angoisses qui montent. C'est pour cela que la Bible dit, ne craindra point les terreurs de la nuit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Nous avons besoin de laisser Dieu s'occuper de nous de manière individuelle. Faire des cauchemars, rêver de ceci, rêver des combats, rêver de mort, de cercueils, de toutes ces choses, ce n'est pas de Dieu. Il y en a qui se sont habitués à cela. Ah, j'ai fait un mauvais rêve, c'est étonnant que quelque chose va arriver à ma famille. Ah oui, moi quand je fais le rêve, alors là c'est sûr que ça va arriver, là c'est sûr que ça va arriver. C'est pas ce que dit la Bible. Donc vous êtes malheureux. Vous avez besoin de crier. L'Éternel est là, près de ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour cela. Nous allons terminer par cela. Jésus est venu pour cela. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous vous sentez misérable, peut-être que c'est un péché qui vous empêche même de vivre une vie tranquille. Jésus libère. Il a libéré Zachée. Une maladie. Il a libéré cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui a dépensé tout son argent chez les médecins. Moi, je suis venu à Jésus parce que dans ma famille, j'ai eu une situation similaire. Pendant 2 ans, ma sœur a été malade. Elle a été condamnée par la médecine. Elle attendait la mort à la maison. On l'a chassée de l'hôpital. Il fallait qu'elle meure à la maison. Et là, il y a eu des hommes de Dieu qui sont venus à la maison. Le pasteur entouré d'à peu près 9 ou 10 personnes qui sont venues prier pour elle. Elle a été guérie à l'instant même, là, alors qu'elle était en train de mourir, elle s'est levée. Tout a changé pour elle jusqu'à aujourd'hui, elle sert le Seigneur. C'est ça qui m'a étonné. C'est ça qui m'a bousculé. C'est ça qui m'a amené à me donner à Jésus. Parce que j'ai dit, c'est pas possible. Quel est ce pouvoir que vous avez? Alors la médecine a échoué. Les magiciens ont échoué. Mais vous, vous avez prié et ma sœur est rétablie. Ils m'ont dit, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ils m'ont dit, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. Et c'était des amis de classe, j'étais en terminale à l'époque. C'est des jeunes qui étaient venus prier pour ma sœur. J'ai dit, je vais aller dans votre église, puisqu'on se connaît, vous êtes mes amis de classe, je vais dans votre église. Et je veux voir si c'est autre chose ou si c'est vraiment votre Dieu. Et à partir de là, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Amen. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Nous avons besoin maintenant de faire le pas de la foi. Amen. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être libéré de tes angoisses? Veux-tu être libéré de ta crainte? Il y en a qui vivent dans la crainte. On a peur du lendemain, on a peur de ceci, on a peur de mauvaises nouvelles, on a peur de tout. Veux-tu être libéré de tous ces esprits de crainte? Ce matin, nous allons prier pour toute personne qui se sent malheureuse, qui se sent opprimée, comme s'il y avait un poids sur vous. Toute personne qui voit comme si le ciel n'était pas clair, il n'était pas dégagé dans sa vie. Nous allons prier pour toute situation, pour que le Seigneur notre Dieu, qui a délivré ces personnes, qui a résolu le problème de cette femme qui avait perdu son enfant, qui avait tout perdu, et l'enfant a été ressuscité, et qui a retrouvé son terrain, sa maison, cette femme qui avait la perte de sang, cette femme qui était possédée, courbée par le diable, comme Zachée, ou comme cet autre qui était près de la piscine. Nous allons prier. Je vais demander à toute personne qui se sent dans le besoin d'être secouru par Dieu, de s'approcher devant, de se mettre là, devant. Nous allons prier pour vous.